Bonsoir Anne Fauquemberg et bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes à Lille, dans les studios de France Bleu Nord. Sur la route, Julie Gacon, avec Yvon Croisier et Sophie Bobert.
Exceptionnel. Très beau bâtiment du XIIe siècle. Entièrement reconstruit fin XIXe, en briques rouges. Superficie 1000 mètres carrés. Très belle hauteur sous plafond. Mobilier original. Décoration néo-gothique. Diagnostic de performance énergétique hors norme. Toiture à suivre. Prix à négocier. Fort potentiel. Possibilité bail commercial. Prévoir rite de désacralisation. Laisse tomber Yvon. Cette annonce est une arnaque. L'église de Castres dans le Nord, elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre, leur église. Pour ton projet de discothèque, on va aller voir ailleurs. Une église devenue pizzeria à la Seyne-sur-Mer, dans le Var, bureau à Lyon, showroom de collection de prêt-à-porter à Nantes, façade d'un hôtel Ibis sur le vieux port de La Rochelle, vinothèque à Dijon. Et puis, il s'en est fallu de peu pour qu'une église de Meurthe-et-Moselle ne devienne un Kentucky Fried Chicken, cette enseigne de fast-food spécialisée dans le poulet frit. Alors, chaque année en France, ce sont entre 10 et 20 chapelles ou églises qui seraient mises en vente parce que les fidèles le sont un peu moins, parce que les prêtres naviguent de clocher en clocher et parce que les propriétaires des églises, les communes ou les diocèses, n'ont plus les moyens de les entretenir. Bonjour Marie-Laure Pin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce soir, vous êtes déléguée générale de l'Observatoire du patrimoine religieux. Est-ce que vous avez un nombre, une idée du nombre d'églises désaffectées aujourd'hui? Et d'ailleurs désaffectées, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un sens juridique?
Alors, on n'a pas de chiffre exact sur le nombre des églises désaffectées. Alors, il faut déjà s'entendre sur le terme désaffecté, puisqu'il y a des églises qui n'en sont plus, et ce depuis déjà la Révolution. Mais elle n'entre pas dans le terme juridique de désaffectation. Ce terme, il faut le rattacher à la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, où toutes les églises paroissiales et leur mobilier donc d'avant 1905 sont devenues propriété des communes et elles ont été affectées gratuitement aux diocèses qui finalement en reçoivent l'utilisation exclusive et perpétuelle.
Est-ce qu'on sait combien d'ores et déjà d'églises ont été vendues dans ces dernières années et combien en ce moment sont en vente?
Alors ça, il faudra aussi revoir les chiffres, puisque la plupart du temps jusqu'à aujourd'hui, on n'en parlait pas autant. Mais le chiffre va être, je pense, exponentiel. On sait surtout le nombre d'églises qui sont dans un cas, un état de conservation assez alarmant. On parlerait là de quelques centaines d'églises, un peu plus de 400, et dont l'avenir est compromis à un terme dans un laps de temps très court, justement.
Alors avec vous dans les studios de France Bleu Nord, le père Bruno Minet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes curé de paroisse à Roubaix et délégué épiscopal à la commission diocésaine d'art sacré. C'est la commission qui s'occupe du patrimoine religieux. Est-ce que tous les évêchés peuvent y consacrer du temps? Est-ce que tous les évêchés ont cette commission d'art sacré?
En fait, oui. Je crois que chaque diocèse a pu constituer une commission d'art sacré. Alors dans certains diocèses, c'est plus difficile que dans d'autres.
Alors combien d'églises dans le diocèse appartiennent au diocèse de Lille? Puisque Marie Lorpin nous disait bien, il y a les églises qui appartiennent à l'État, ce sont celles qui ont été construites avant 1905, oui. Donc aux communes, et celles qui appartiennent au diocèse, celles qui ont été construites après 1905, a priori elles sont moins nombreuses.
Forcément, les églises communales sont beaucoup plus nombreuses que les églises diocésaines, et j'allais dire Dieu merci.
C'est le cas de le dire.
Des églises diocésaines ici à Lille, on en a environ entre 60 et 70. Pour le reste, les églises communales, elles sont environ 470 à 500.
Bruno Minet, la plupart des églises appartiennent encore aujourd'hui aux communes et donc aux maires qui, en tant que propriétaires, sont chargés de leur entretien.
Alors c'est là qu'il faut trouver juste le bon endroit quand on le tire. Voilà, la tour. Ça paraît très beau, hein, là. C'est tout nickel, la maçonnerie. Si je me souviens de ce que le premier architecte avait bien dit, c'était du 16e siècle, mais il y a eu des ennuis. Un incendie un siècle après, encore un incendie un siècle après. Puis après, il y a eu les deux guerres mondiales. C'est pour ça que ça paraît assez neuf. C'est ce qui est le moins vieux dans l'église, c'est la tour qui a été refaite après-guerre. Donc on a une nef centrale et après deux nefs latérales. Et c'est là qu'on voit vraiment le mauvais état de l'église. Ça c'est des travaux, des destructions, en fin de compte, pour sonder s'il y avait du mérule ou pas dans les nefs latérales. En fin de compte, on l'a vu parce qu'il y a toute une colonne comme ça qui est tombée. Donc en fin de compte, après, ils ont essayé de sonder à plusieurs endroits. Et c'est à ces endroits-là qu'ils ont vu que c'était très humide, quoi.
C'est vrai que quand on est au milieu de cette église, on prend la mesure de l'ampleur de cette église de Castres. Je pense que de l'autel au portail, il y a presque, je sais pas, 60 mètres à peu près. Derrière l'autel, ce magnifique retable en bois, sculpté, travaillé, ciselé. Tout comme ces orgues derrière nous, impressionnantes, immenses. En fait, elle est très grande pour une commune d'aujourd'hui, combien, 2000 habitants?
Et quand on voit la population du village par rapport aux gens catholiques pratiquants, c'est pas tellement proportionnel, hein. Ça devient inversement proportionnel. Alors que c'est traditionnel, c'est vraiment une tradition ancrée ici, hein. Normalement, c'est vraiment les Flandres, hein, les Flandres intérieures, donc c'est vraiment vraiment catholique ici.
Brigitte Van Hersel, quels sont vos premiers souvenirs de petite fille castroise, bien avant d'être élue maire, de petite fille castroise dans cette église?
Enfin, moi, j'ai été baptisée, là, donc ça, je m'en souviens plus. Après, je me souviens qu'il y avait des rangées de chaises ici, et juste après ce crucifix-là, nous, on se mettait toujours là, derrière le poteau, là. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques, on était obligés de faire ça. Et enfin, ce que je me souviens bien, souvenir de petite fille, c'est que quand on allait à l'école, on devait faire une chaîne de messe. Donc il devait toujours avoir un élève de l'école qui était à la messe basse le lundi et mardi, les jours de semaine, les jours d'école.
Derrière le poteau, c'était la planque quand même.
Oui, mais enfin, on avait toutes les dames qui nous regardaient dès qu'on chahutait. Non, on ne pouvait pas chahuter. Les enfants, ils ne parlaient pas à l'église en ce temps-là.
Alors, bien des années plus tard, en 2014, Brigitte Van Hersel, vous avez été élue à la mairie de Castres. Et là, vous êtes devenue, sans vraiment le vouloir, propriétaire de cette église, puisque chaque église construite avant 1905 appartient à sa commune. Et là, vous vous êtes retrouvée devant un chantier, en fait.
Alors, quand j'étais élue en avril, donc au mois de mai, avec mon adjoint et les employés du service technique, on est monté voir la cloche, Bon, à part qu'il y avait beaucoup de pigeons, mais autrement, pour moi, tout était presque positif. J'étais vraiment ébahie. Et là, en décembre 2015, à l'endroit où il y a le trou là, il y a eu toutes des éboulis juste avant Noël. Donc moi, le 20 décembre, un peu avant Noël, je suis remontée là en haut avec le service technique. Et là, en 18 mois, j'ai vu que c'était vraiment beaucoup changé, beaucoup dégradé, parce que la couverture, elle est plus vraiment étanche.
Comment ça s'est passé? C'est pendant la messe, les fidèles c'était ont pas, reçu des morceaux de mur.
Il n'y a pas beaucoup de messe, donc c'était pas avant la messe. Non, c'était pas avant la messe. Il y avait des morceaux de plâtre, hein, surtout, et de l'eau. Donc une fois qu'il y a eu ce trou-là, il fallait faire quelque chose. Et là, ils préparaient leur crèche, quand je leur ai dit, ce soir, la messe de Noël, elle aura peut-être pas lieu là. Mais pour eux, c'est impossible, quoi. Le bon Dieu, il va pas faire tomber l'église le jour de la messe de Noël, quoi. C'est, ils vont regarder d'un air ahuri. Donc, c'est pour ça qu'il y a des barrières à cet endroit-là. Et là. C'est les endroits qu'on avait détectés les plus dangereux. Donc, si vous voulez que l'église vous tombe sur la tête, vous allez au milieu des barrières, là. Enfin, vous attendez, hein. Avec un peu de patience, ça arrivera peut-être. Nous, on a une harmonie communale. Ils jouent vraiment très bien. Et c'est vrai qu'il y a une musicienne qui m'a dit, en sortant de la messe le dimanche, qu'elle avait des morceaux de plâtre qui étaient tombés sur sa partition. Ça fait un peu peur, quoi, ça. Ce qu'il faut vraiment, c'est des gros travaux.
Donc vous avez sollicité l'avis d'un architecte des bâtiments de France. Mmh. En attendant, un débat s'organise au sein de la cité. Vous avez, vous, en tant que maire de Castres, sollicité l'avis des habitants. Est-ce que l'avenir de leur église les intéresse?
Moi, j'étais étonnée que quand on a fait la réunion pour le débat de l'église, il y avait très peu de fidèles qui étaient présents. Et les avis étaient assez partagés. Donc, certaines personnes disaient de condamner les nefs latérales, après ceux d'abaisser la voûte de la nef principale, de couper l'église en deux. Donc on a eu tout. Et après, il y avait ceux qui disaient de revendre l'église ou alors en faire des lofts. Mais ça, c'était quand même quelques cas très très rares. Quoi, ça. Le vrai problème qui m'a quand même surpris, c'est que si on veut vraiment faire des travaux et toucher les subventions, parce que c'est quand même, faut quand même aller chercher l'argent si on veut faire les travaux, il faut quasiment refaire à l'identique.
Parce que le premier devis ou avis d'un architecte que vous sollicitez, c'était, la facture se serait élevée, je crois, à plus d'1 300 000 euros.
Oui, c'est ça.
Mais ça représente, pour le budget de votre commune, c'est presque 100%.
Oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est impossible de toute façon. Après, on aurait les subventions du conseil régional, de la DETR, du département, DETR. Et dotation pour les équipements des territoires ruraux. Après, il y a aussi la communauté de communes qui pourrait éventuellement nous aider, mais toutes les églises du secteur sont quasiment dans le même cas. Et après, on devrait faire un appel aux particuliers.
Une souscription,
oui.
Ça se fait?
Ça se fait.
Ouais. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fidèles qui se retrouvent ici pour la messe?
Moi, ça varie entre 50 et 100, 70, 80. Nous, ici, on n'a plus qu'une messe par mois, le premier dimanche du mois. Ce qui fait que ça n'aide pas non plus pour la structure de l'église, parce que le chauffage n'est pas souvent activé. Enfin, ça fait des économies de chauffage, mais ça n'aide pas du tout pour entretenir l'église. Parce que l'humidité s'installe.
Il n'y a plus de pratiquants, vraiment, plus beaucoup.
Non, il n'y a plus beaucoup de pratiquants. Et c'est vrai que les cloches rythment la vie de la commune, mais plus forcément la vie religieuse. Moi, c'est vrai que quand j'entends l'Angélus, surtout le soir à 7h05, par là, 19h05, c'est vrai que là, je me dis, c'est vrai qu'avant, c'était vraiment un temps d'arrêt. Que maintenant, on ne connaît plus ça dans la vie actuelle. On va s'arrêter pour un portable, on va pas s'arrêter pour la cloche qui sonne, quoi.
Sur la route des églises en quête de salut, comme cette église de Castres, C-A-E-S-T-R-E, dans le Nord, nous sommes quant à nous dans les studios de France Bleu à Lille, avec nos deux invités, le père Bruno Binet du diocèse de Lille et Marie-Laure Pain de l'Observatoire du patrimoine religieux. Bruno Binet, comment des églises qui pour certaines sont restées intactes pendant des siècles se sont détériorées si vite depuis quelques décennies à peine ?
Ma foi.
Elles n'ont pas été entretenues.
On le constate en tout cas en certains lieux. On constate qu'effectivement, des choses qui n'étaient pas forcément compliquées, essayer de vérifier quel est l'état des chéneaux, l'entretien courant. Moi, j'ai été curé avant d'être à Roubaix, j'ai été curé à Marc-en-Barœul, une paroisse qui comptait 3 clochers, dont 2 diocésains, donc 2 qui étaient à notre charge. C'est vrai que régulièrement, avec le conseil économique paroissial, on prévoyait de vérifier l'état de la toiture, de vérifier l'état de la chaudière. Enfin, il y a des choses comme celle-là que l'on devrait faire d'une manière normale, habituelle. On le fait pour sa maison. Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer. Est-ce que les communes prévoient dans leur budget régulièrement des sommes pour l'entretien, la vérification de leurs églises ? Il faudrait poser la question aux maires eux-mêmes.
Il faut savoir que la commune est tenue d'assurer le clos et le couvert des églises, c'est-à-dire s'assurer que l'église est au moins hors d'air, hors d'eau. On entendait justement dans le reportage ces soucis donc de toiture et la mère qui s'étonne que justement en 18 mois, l'état intérieur de l'église se soit incroyablement détérioré. Et ça c'est évident. Lorsqu'on a une église qui ne possède plus une isolation correcte, les infiltrations peuvent faire des dégâts irréversibles.
Entre parenthèses, cette église de Castres, elle a été reconstruite après un incendie au 19e siècle.
Voilà.
Peut-être et que ceci explique cela.
Il faut savoir qu'au XIXe siècle, on a beaucoup construit. Et on a construit peut-être un peu trop à la hâte. On a employé des matériaux moins performants. Par exemple, on a utilisé des calcaires au lieu de creuser jusqu'à des couches plus performantes. On a utilisé les premières couches que l'on pouvait exploiter dans les carrières, qui sont peut-être parfois des couches bien plus friables. On a creusé des fondations bien moins profondes. Donc tout ça participe aussi à l'avancée rapide d'une dégradation.
Bruno Binet, est-ce que les diocèses ont moins de problèmes d'entretien justement parce que vos églises à vous ont été construites au XXe siècle ?
J'aimerais pouvoir le dire, mais en fait, non, pas vraiment. Comme vous le disiez à l'instant, les églises qui ont été construites au XIXe siècle l'ont été à moindre coût.
Hein, aussi, oui.
Voilà, des églises ici dans le diocèse, des églises néo-gothiques ont été construites en assez grand nombre. Charles Leroy, c'est un nom fameux chez nous, hein, un architecte qui a construit un bon nombre d'églises dans le style néo-gothique. Mais c'était briques et plâtre. Mmh. Hein, donc ces églises ne vieillissent pas forcément très bien. Et j'ai entendu une fois un architecte qui avait des responsabilités à la DRAC dire que certaines d'entre elles étaient arrivées au bout de leur vie. D'ailleurs, on construisait des églises sans imaginer, enfin à l'époque, hein, au XIXe siècle, on construisait des églises sans imaginer qu'elles avaient les promesses de la vie éternelle. On savait que un jour il faudrait les reconstruire, mais peu importe, on les ferait de toute façon plus grandes et on n'avait pas peur de ça. Et au XXe siècle, on a construit d'autres églises, alors avec du béton, et on a des problèmes de béton qui éclate avec les fers qui rouillent. Ça s'est produit dans plusieurs églises du diocèse, par exemple à Saint-Chrysol, la Comines, qui est actuellement en cours de restauration complète. C'est un travail énorme, vraiment.
Le chauffage, c'est un problème, hein, est-ce que je peux rentrer dans les détails ou quoi ? Madame la mairesse en a parlé ou quoi ?
Alors là, on est dans la sacristie,
Maxime Butstran, et vous vouliez nous montrer ce qu'il y a derrière cette porte, c'est-à-dire le chauffage qui sert à toute l'église, mais un chauffage que vous nous dites défaillant.
Le volume à chauffer dépasse les 15 000 mètres cubes. Donc il faut commencer 2 heures avant l'office pour essayer d'avoir un peu de température déjà. La partie centrale a fait de 13 à 15 mètres là. Donc en haut il fait chaud, mais en bas il fait froid quoi. Donc c'est très très difficile et très coûteux à chauffer.
Maxime Butstran, vous la connaissez par cœur, cette église de Castres. Oui, vous en avez même un double de la clé.
Oui.
Le mot fidèle s'applique particulièrement bien pour vous. Vous êtes très souvent là.
Non. Il y en a pas mal qui se font beaucoup plus que moi. Il y en a pas mal qui font beaucoup plus de choses que moi. Mais je me suis surtout impliqué depuis que... On a eu une réunion il y a 6-8 mois pour demander ce qu'on pouvait faire avec l'église, quoi. Et même si on avait des projets, on pouvait les soumettre, quoi. Et alors moi, c'est ce que j'ai fait. C'est une idée qui m'est venue. C'est surtout de ça qu'on peut parler, on peut en parler de
ça. Mais bien sûr, vous êtes venu avec vos plans, alors. Oui, dites-nous.
C'est pas mes plans, hein. Non, parce que j'ai fait appel à des professionnels quand même. Hein, parce que premièrement, le haut de l'église doit être démonté. La partie du haut est démontée entièrement, vous voyez. Actuellement, elle fait au moins 13 mètres de haut, l'église, la partie centrale. Là. Et là, on a diminué à 7 mètres. Là. Disons qu'on ferait une charpente en lamellé-collée.
Hein? Comment?
En lamellé-collée. Donc, à tous ceux que je le montre, ils disent c'est exceptionnel. Là, il y aurait un beau dôme dans le milieu, là. Un dôme d'éclairage, on appelle ça des dômes, hein. Des dômes d'éclairage, sur toute la longueur. Hein.
Donc, en fait, vous couperiez tout ce qui dépasse dans l'allée centrale au-dessus d'une certaine hauteur.
Oui, sur une certaine hauteur, oui.
Et ça servirait à quoi de réduire la hauteur de l'église?
Avoir un bâtiment beaucoup plus facile à chauffer. Je juge que le chauffage pourrait être divisé par 5.
Ah oui, par 5 les modes de chauffage.
Par 5. Et l'avantage, c'est que ces beaux châssis là, de chaque côté, là, et les deux beaux vitraux de chaque côté, là, puis tout reste intact. Là. Mm-hmm. Tout reste intact. Les confessionnaux, ça reste tout intact, vous voyez. Il y a peut-être que les parties hautes qui devraient être transformées un petit peu, là.
Donc voilà, très belle charpente avec un dôme dans le milieu. Ouais. Et la toiture très bien isolée avec une bonne épaisseur de laine de roche. La laine de roche.
C'est bon contre incendie, hein. C'est anti-feu, la laine de roche. Hein. Oui. Dès qu'il y a la moindre fumée ou même la moindre forte chaleur, le dôme s'ouvre. Ah oui, ben ça, c'est une sécurité qui est absolument nécessaire. Hein. Ça coûte d'ailleurs très cher, mais c'est absolument... Il n'y a pas moyen de faire un bâtiment public sans ces sécurités-là. Hein. Ouais.
On a l'impression que c'est vrai, c'est un dossier très sensible que celui de l'église de Castres dans la commune.
Ah mais, à notre première réunion, l'ensemble du conseil était vraiment... un peu désemparés, hein. Ils ne savaient pas quoi faire. Hein. Ils étaient sur le point de fermer l'église. Hein.
Vous, est-ce que quand vous venez à l'office, vous êtes inquiet? Est-ce qu'en chantant les psaumes,
non,
vous jetez un œil sur les murs?
Non, pas à ce point-là. Mais on n'aimait pas que l'église soit fermée. Quoi.
Pourquoi?
Bah, c'est un peu l'âme du village. Hein. C'est l'âme du village, un peu. Hein. Donc, allez.
Les bonnes volontés peuvent-elles sauver des églises ? Bruno Minet, est-ce qu'il est arrivé ici, dans le diocèse de Lille, que ce soit des bénévoles, des fidèles de la paroisse qui s'y mettent tous pour reconstruire, pour restaurer ou pour donner de l'argent, quoi, une souscription, qui chacun verse son obole ?
Oui, la communauté paroissiale est toujours sollicitée, invitée à s'impliquer, et cela vaut mieux, hein, parce que sinon... on n'arrive pas à grand chose. Il faut des moyens matériels, financiers, c'est vrai, mais il faut aussi beaucoup de volonté de réussir. Alors on cherche les idées. Certaines sont bonnes, d'autres moins. Mais c'est très très important que les fidèles du lieu et beaucoup plus largement les gens qui vivent, j'allais dire à l'ombre du clocher, se sentent concernés, impliqués. Sinon un maire tout seul, il n'y arrivera pas, il ne pourra pas. Il doit pouvoir compter vraiment sur tout le monde et sur la communauté paroissiale en particulier.
Ceci dit, à Castres, comme de nombreuses communes de France, on entend bien que la sociologie de la commune a changé. Les nouveaux habitants dorment plus qu'ils n'y vivent. Une population rajeunie qui ne va plus à l'église. Et pour une commune, Marie-Laure Pin, c'est une vraie question, le choix d'affecter l'argent de la commune à l'église plutôt qu'à la cantine, la salle des fêtes, comme si c'est passé à Castres sur les municipalités précédentes. On est dans l'idéologie ou le pragmatisme, la politique ou l'économie?
C'est une très bonne question, et le vrai questionnement, c'est de savoir qu'est-ce que représente l'Église pour la commune et pour ses habitants. Est-ce que c'est simplement un lieu de culte? Est-ce que ça ne serait pas aussi parfois le seul monument de la commune, le seul élément monumental, le seul même
du patrimoine.
Mais même juste en termes de grandeur, d'élévation, c'est le seul édifice qui marque le paysage. Et la plupart du temps aussi, c'est un édifice patrimonial, c'est un édifice qui a une histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, bien sûr, la question, c'est pas simplement aussi une question de culte, c'est aussi, est-ce qu'on restaure, est-ce qu'on entretient le seul élément patrimonial de notre commune?
Est-ce qu'il est arrivé que parmi tous les maires qui doivent, j'imagine, appeler l'Observatoire du patrimoine religieux pour dire, voilà, moi, mon église est à la peine, il faut m'aider, etc. Est-ce que certains vous disent que ces habitants, leurs administrés sont insurgés contre, justement, un projet d'investissement dans de gros travaux de l'église?
Non, on n'a pas souvent ce genre d'écho. En général, ce sont même les habitants qui nous appellent. Ils se sont constitués en association de sauvegarde, et soit eux qui nous appellent pour lancer un appel au secours. Notre église ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où nous, l'Observatoire du patrimoine religieux, on s'efforce de leur prodiguer des conseils, que ce soit financiers, administratifs, juridiques, techniques.
Alors cette désaffection des fidèles pour les églises, elle vaut aussi pour toutes celles qui ont été construites après 1905. Bruno Minet, je pense notamment à toutes ces églises qui ont été construites dans les années 50, 60, en plein âge d'or de l'industrie, dans les nouvelles zones d'habitat, face aux usines parfois, qui aujourd'hui sont en friche, et notamment dans le Nord.
Oui, c'est le spectacle que l'on a dans certaines villes de notre région. Des églises qui ont effectivement été construites pendant l'âge d'or, si je puis dire, hein, ces fameuses 30 glorieuses. Des églises donc qui ont poussé au milieu de quartiers qui étaient eux-mêmes tout neufs, avec des populations jeunes, vivantes, et à l'époque encore une pratique dominicale assez importante. Donc on a été très très optimiste. On a construit dans les années 50, 60, voilà, pas beaucoup au-delà, hein, mais... Et aujourd'hui, on constate que la population a changé, a vieilli. On constate aussi dans certaines communes de la région la présence de beaucoup de personnes d'origine étrangère, de confession musulmane. Et on a des quartiers où l'église paraît comme orpheline, en quelque sorte. Hein, et devant, effectivement, aussi des usines vides. Des friches, hein. N'est pas nécessaire d'aller très loin, à Roubaix, on peut le voir.
Alors moins de fidèles, c'est aussi moins d'argent pour l'église. Je crois que le Nord est le département de France où le denier du culte est le plus faible, d'après ce que j'aurais lu.
Non. Je n'oserais pas l'affirmer. Je sais que les personnes qui s'en occupent au diocèse sont très actives. Il y a aussi sous les clochers toujours des équipes de bénévoles qui quêtent en quelque sorte, qui vont chercher l'argent auprès de leurs semblables dans le quartier, dans la ville. Hein, des équipes de personnes souvent d'un certain âge, mais qui se renouvellent tout doucement. Heureusement qu'il y a cette ressource, mais elle n'est pas suffisante. Le denier de l'Église n'est pas suffisant.
Elle n'est pas suffisante à tel point que parfois, la solution, parfois et de plus en plus en fait, c'est de vendre les églises. Aussi profane d'ailleurs fut le projet de son acquéreur. Que dit le droit canon à ce sujet? Est-ce qu'il y a des limites à l'utilisation d'une église après désaffectation et après désacralisation?
Alors du point de vue du droit de l'Église,
ouais.
Une église qui est à moitié détruite ou dans laquelle on ne peut plus célébrer le culte, bien elle est, je dirais, désacralisée de fait. Sinon, quand une église nécessiterait des travaux trop importants qui dépasseraient les capacités des paroisses, eh bien l'évêque peut constater la chose et puis, par un décret, exécrer l'Église, comme on dit, un décret d'exécration. C'est une formule qui n'est pas très compliquée. Hein. On n'a aucune autorisation à demander. Là, quand il s'agit d'une église diocésaine, l'évêque donc constate et il prend la décision qu'il faut.
Voilà, quand il s'agit d'une église communale, c'est le préfet qui doit donner son
accord. Voilà, quand il s'agit d'une église communale, le circuit est un petit peu plus compliqué.
Marie Lorpin, en France, partout en France, des églises se sont vendues. Est-ce que la reconversion de l'église est encadrée? Quelqu'un qui voudrait la transformer, alors ça peut aller de la friterie au cinéma porno. Je crois que vraiment tous les projets ont été déposés. Jusqu'où on peut aller?
Eh bien, on peut dire que dans les faits, officiellement, on peut tout faire. Une fois que l'église est désaffecté, désacralisé, cela devient une coquille vide. Donc, techniquement, on peut tout faire. La vraie question, c'est, d'un point de vue social, est-ce qu'on peut vraiment tout faire d'une église, d'un bâtiment qui était sacré à l'origine? C'est un bâtiment qui a été construit dans ce but-là. Il a d'autant plus une architecture tout à fait caractéristique. Donc, désacralisé ou non, l'église ressemble toujours à une église. Et c'est ça aussi qui a un impact sur la population. Donc, on se rapproche de la population et vous voyez, quand on parle de transformer l'église en KFC, on a affaire à une véritable levée de bouclier et c'est tout à fait justifié.
Alors, c'est en France, c'est vrai qu'on est encore assez frileux là-dessus, mais je crois qu'à l'étranger, on va aller plus loin.
C'est vrai que nous, on connaît un peu plus ce qui se passe au Québec. On a eu notre responsable du service de l'inventaire qui s'y est rendu très récemment. Le Québec, ils ne sont pas du tout frileux sur la question et on peut dire qu'ils ils désaffectent pas puisqu'ils n'ont pas eu de loi en 1905, mais ils désacralisent beaucoup d'églises. Depuis une décennie, ce sont 285 églises à peu près qui ont été transformées. Ils ne détruisent pas leurs églises, c'est ça qui est intéressant. La question est, est-ce qu'on préfère détruire ou transformer? La plupart des gens, même il s'agirait de plus de 70% des catholiques, préféreraient voir une église transformée plutôt que détruite. Et évidemment, nous aussi. Puisque lorsque c'est détruit, c'est perdu à tout jamais.
Bruno Minet?
Oui, le droit canonique stipule aussi que si l'église doit servir à autre chose, après donc son abandon par la communauté paroissiale. Si l'Église doit servir à autre chose, il faut que cet usage ne soit pas inconvenant. C'est le mot qu'emploie le Code, alors évidemment...
Ça apparaît dans le compromis de vente.
Reste à l'interpréter. Mmh. Oui, sans doute. Le problème, c'est que au-delà du premier acheteur, si lui-même devient vendeur, comment l'évêque pourrait-il continuer d'imposer des restrictions? Ça paraît quand même compliqué.
Alors vous en avez quelques-unes dans le nord des églises qui ont été reconverties. L'église Sainte-Marie-Madeleine dans le Vieux-Lille, devenue lieu d'exposition. Au faubourg de Béthune, l'église Sainte-Germaine qui accueille aujourd'hui un centre de soins. Tourcoing qui s'est séparé de deux églises dont l'une devait être transformée, je crois, en loft. Comment se passe le rite de désacralisation? Il est obligatoire pour chaque église?
C'est très simple, hein, c'est très sobre. On va célébrer une dernière fois la messe avec la communauté rassemblée, et puis on retirera peut-être certains éléments de l'église, du mobilier. Par exemple, on retirera au moins la pierre d'autel. On videra le tabernacle, bien sûr. Voilà, il y a des choses comme celle-là qu'on va retirer symboliquement, mais comme vous le disiez aussi, on a beau faire une église, elle ressemble toujours à une église, surtout si des éléments du mobilier qui sont solidaires de la construction demeurent en place, comme des retables par exemple, ou même des autels hein, qui sont scellés au sol.
C'est un événement dans une commune, le rite de désacralisation, Marie-Laure Pin?
Oui, c'est un véritable événement, et lorsqu'on a affaire à une désacralisation, on observe que même des non-pratiquants se rendent ce jour-là à l'église et avec nostalgie. Et les habitants ont vraiment la sensation de perdre un édifice qui faisait partie de leur vie, parce que même si, parlons simplement des croyants, même s'ils ne se rendaient pas régulièrement aux offices, ce sont des personnes qui ont baptisé leurs enfants, qui ont peut-être même été baptisés eux-mêmes, ou ils se sont mariés. Donc, même si ce sont des fidèles, disons, très ponctuels, ils restent tout de même attachés à leur édifice religieux.
Et du côté de l'église, est-ce que l'évêché, parce que je crois que l'évêque est présent pour un rite de désacralisation, est-ce que l'évêché, l'église a l'impression de vendre ses bijoux de famille dans ces cas-là? Ou est-ce qu'elle le fait sans état d'âme?
Elle le fait contre mauvaise fortune, bon cœur, si on peut dire. Le cœur saigne quand même un peu. Il faut aussi peut-être ajouter que souvent, quand on doit donc se séparer d'un édifice parce qu'il est devenu trop lourd, trop coûteux, soit qu'on le vende, soit qu'on le détruise, il est souvent arrivé quand même qu'on reconstruise quelque chose, un lieu beaucoup plus petit, hein, mais pour que la communauté locale puisse continuer quand même de vivre. Et on s'arrange alors pour intégrer dans la nouvelle église ou la nouvelle chapelle des éléments de l'ancienne église, le monument aux morts par exemple, les monuments aux morts des enfants de la paroisse qui sont tombés au champ d'honneur, enfin des vitraux éventuellement.
Des éléments de mobilier.
Voilà, des éléments de mobilier, qu'il y ait une forme de continuité, la vie continue.
Guylain Merlevette, depuis votre maison du centre-ville de Castres, centre-village, comme on dit, on la voit bien, l'église de Castres. Est-ce que vous pouvez l'observer quand le brouillard l'enrobe?
Tout à fait, elle est visible de ma fenêtre, elle est visible de par la lumière lorsqu'elle est éclairée la nuit. Et elle est au centre du village, donc elle est représentative pour tous les gens, tous les Castrois et tous ceux qui habitent les environs.
Tous les clochers sont reconnaissables.
Tout à fait. Pour utiliser une image, les clochers étaient le GPS du temps passé.
Guylain Merlevette, dans votre vie professionnelle, vous êtes inspecteur de douane, et dans votre vie, disons privée, vous êtes diacre. Alors on ne dit pas diacre de Castres, car vous n'êtes pas rattaché à un clocher ou à une paroisse, mais à un évêché. Pour autant, est-ce que vous vous sentez attaché à votre clocher, celui qui est en face de chez vous, le clocher de Castres?
J'habite Castres, c'est l'église de mon village. Mais de par mon ministère, j'aime à dire que je suis plus concerné dans la vie de mon église avec un grand E en tant que communauté des chrétiens, que l'église avec un petit E, le bâtiment. Pour moi, ça n'est pas ça le plus important. Mais si on devait, par la force des choses, envisager de devoir détruire, de la recomposer entièrement pour la mettre à des normes qui sont, on va dire, plus modernes en termes de chauffage, en termes d'isolation. Au niveau des souvenirs, ça m'affecterait, mais au niveau de l'avenir de la paroisse et au niveau de l'avenir de mon église, avec un grand E, eh bien, je ne suis pas opposé du tout. Pour moi, cette maison doit être dans son temps.
Alors le prêtre de la paroisse, l'abbé Dupuis, a provoqué un débat en disant « moi je ne serais pas contre qu'il y ait un clocher par paroisse, que chaque paroisse, donc 5 ou 6 communes, ait un clocher référent ».
Faire ça, ça veut dire, et en particulier en rural, ça veut dire prendre sa voiture et parcourir 5, 10, 20 kilomètres pour se rassembler. Pour ma part, j'ai le sentiment que au niveau des habitudes, au niveau des usages, on n'y est pas du tout prêt. On doit continuer à faire vivre l'Église au niveau local, chaque dimanche, sans forcément qu'il y ait Eucharistie.
Donc sans forcément qu'il y ait prêtre.
Tout à fait.
Ce serait une solution à un double problème auquel est confrontée l'Église aujourd'hui, le manque de fidèles et le manque de prêtres.
Tout à fait.
Est-ce que dans le contexte actuel, un contexte de montée de l'islamisme, d'un radicalisme religieux, est-ce que vous entendez chez les fidèles la peur justement de voir disparaître les uns après les autres des clochers qui sont encore le symbole d'une présence du christianisme et d'une certaine, on n'ose pas dire, vigueur?
Quelle question ? Je vais réagir en deux temps. Le premier temps, c'est qu'il ne faut jamais oublier que Castres est un petit village de 2000 habitants et que le seul représentant de la communauté musulmane que les gens connaissaient, c'était mon ami Momo. Momo qui a quitté le village pour habiter Hazebrouck. Donc le vent d'islamisation, de radicalisation, à ce jour, les Castrois ne le connaissent pas.
Il n'a pas soufflé jusqu'ici.
Non. Ils ne sont pas, bien évidemment, ni sourds ni aveugles. Ils regardent la télévision, ils lisent les journaux. Ce qui a été vécu à côté de Rouen est absolument monstrueux. Mais ça n'est pas le cas ici. En revanche, là où je travaille, puisque je travaille à Tourcoing, je compte parmi mon entourage des gens qui sont plus sensibilisés à ça et qui se laissent porter par tous ces gens et qui vont jusqu'à montrer du doigt la communauté musulmane comme étant un danger. Pour ma part, j'affirme que la liberté de penser est une liberté fondamentale. Toute personne a le droit d'avoir un lieu pour pouvoir prier avec d'autres personnes qui partagent les mêmes croyances à partir du moment où chacun se respecte les uns les autres et que tout ça constitue une belle fraternité.
Est-ce que vous sentez néanmoins qu'il y a une crispation de la part de certains fidèles, ou quand je dis crispation, au moins une volonté de conserver cette forme de présence ? Catholique.
Cet attachement est naturel, ça c'est tout à fait normal. Et bien souvent les plus radicaux sont les gens qui ne la fréquentent pas, parce que même s'ils ne partagent pas toutes les convictions, c'est pas pour autant que leur attachement au bâtiment et à ce que ça représente n'est pas présent et n'est pas solide.
Bruno Minet. Genet pour réagir aux propos de Guislain Merlevède. Depuis Saint-Étienne-du-Rouvray et la mort très violente du père Jacques Hamel, est-ce que vous avez eu, vous, des retours des prêtres du diocèse de Lille ou des fidèles sur leur volonté peut-être accrue de vouloir maintenir cette présence catholique comme une fierté, comme un symbole?
Je n'ai pas entendu de remarques qui iraient dans ce sens-là. Évidemment, tous nous avons été très touchés, quoi, bouleversés par cet événement. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu, le diacre l'évoquait tout à l'heure, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, le 15 août. On a senti là, donc c'était quoi, deux bonnes semaines après la mort du père Jacques Hamel, on a senti là, c'est vrai, peut-être une émotion très très tangible, très forte, mais aucun désir de revanche, entre guillemets, aucune animosité ou que sais-je. Mais on peut peut-être aussi s'interroger sur notre témoignage. On peut mourir pour sa foi, comme le père Hamel, mais il faut aussi vivre en témoignant. On n'est pas obligé d'attendre la dernière extrémité. Hein. Et c'est peut-être cela que certains chrétiens ont réalisé tout à coup en disant « mais vivre en chrétien aujourd'hui, c'est important ».
C'est vrai qu'ici dans le Nord, on n'a pas l'impression, par exemple, que la construction de mosquées comme à Hasbrouck, en ce moment, quand dans le même temps des églises ferment ou sont démolies, on n'a pas l'impression que ça génère de crispation comme d'autres départements, je pense au Var.
Effectivement, je n'ai jamais constaté de mouvement, de vindicte, même à Roubaix. Hein, Roubaix, qui est une ville où il y a au moins 6 mosquées, peut-être 7 maintenant. Voilà, on essaie de vivre en bonne intelligence. Ce n'est pas toujours facile, il faut en prendre les moyens quelquefois. Mais en tout cas, il y a ce désir de vivre ensemble.
C'est vrai, Marie-Laure Pas, on n'a pas évoqué cette bonne entente des responsables religieux qui n'hésitent pas pour certains, et c'est arrivé en France, responsables catholiques, de céder, de vendre l'église à la communauté musulmane pour en faire un lieu de prière, pour en faire une mosquée.
Oui, tout à fait. On a l'exemple bien connu à Nantes de la chapelle, il me semble que c'est la chapelle Saint-Christophe, qui après des affectations et des sacralisations, a été rachetée par une association cultuelle musulmane qui en a fait une mosquée. Et, de toute façon, toutes les communautés religieuses en France ont le droit d'avoir un lieu de culte décent. Je précise bien décent pour prier.
Bruno Minet.
Oui, c'est vrai qu'ici ou là, il y a quelques cas d'églises ou de chapelles de congrégations qui ont pu être cédées à des communautés musulmanes.
Mais il faut ça bien doit, dire que oui. c'est vraiment pas
ça doit
courant.
Non, il y a quelques cas, quoi. Ça se compte sur les deux doigts de la main, je pense, et ça remonte à quand même une trentaine d'années, pas loin. Aujourd'hui, je crois qu'on posera la question différemment, oui.
Peut-être finalement la conclusion de cette émission, c'est que tout comme personne n'était en mesure de prévoir la crise que traverse l'Église aujourd'hui, personne non plus aujourd'hui n'est en mesure de prédire ce que sera la vie religieuse dans 50 ans.
Oui, on aura peut-être à faire un regain religieux. Hein,
c'est pour ça aussi que certains maires tiennent à leurs églises, non seulement les maires des villages, mais les maires des villes qui ont une charge quelquefois très lourde. Hein. Ils peuvent avoir 5-6 églises ou plus. Et je crois qu'ils ne désespèrent pas de l'avenir.
Merci en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous pour en parler. Père Bruno Minet, délégué épiscopal à la commission diocésaine d'art sacré ici à Lille, et ainsi qu'à vous, Marie-Laure Pin, déléguée générale de l'Observatoire du patrimoine religieux. Nous mettons quelques liens utiles sur la page de Sur la route, dont votre site, sur le site de France Culture, avec les photos de l'émission à retrouver aussi sur Twitter et Instagram. C'est à mon nom, Julie Gacon. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisi au volant, copilote Sophie Bobert, merci à France Bleu Nord pour son accueil. À la technique, c'était Cécile Manoa. La semaine prochaine, nous serons sur la route de l'identité corse après les incidents de Cisco et l'affaire du soi-disant Burkini. Une certaine parole semble s'être libérée sur l'île. Comment la Corse a-t-elle digéré son multiculturalisme? Rendez-vous samedi prochain à 18h10. Bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Freissé pour Tout un monde.